Un peu de hockey au menu de l'émission de ce soir avec, bien sûr, Benoît Brunet, tel qu'annoncé tout à l'heure. Bonsoir, Benoît.
Salut, Mario.
Et avec nous également, Danny Dubé. Salut, Danny.
Salut, Mario. Salut, Benoît.
Salut, Danny.
Alors, les gars, le repêchage s'en vient. La période d'autonomie également, en tout cas, où on peut courtiser les joueurs autonomes. Mais tout ça s'imbrique. Il y a beaucoup de choses qui sont interreliées, en ce sens qu'il faut combler des besoins pour les équipes. Il y en a qui vont passer par le marché des joueurs autonomes partiellement, il y en a qui vont y aller totalement. Et dans un premier temps, avant de s'interroger sur quel joueur devrait nous intéresser, Benoît, toi, est-ce que tu souhaites que le Canadien dépense beaucoup d'argent au 1er juillet sur le marché des joueurs autonomes?
Non.
Non? OK.
Et oui pourquoi? Et non.
OK, vas-y.
Oui et non. Oui et non.
Oui et non.
Vas-y,
ben, les mauvais contrats, il y en a toujours. Puis il y en a beaucoup qui existent à travers la Ligue nationale. On a l'exemple avec Carl Osner que ce contrat-là n'a pas été payant pour le Canadien. Je pense pas qu'il va être payant à long terme. Il a même pas été payant à court terme avec Carl. Je sais pas comment il va jouer l'année prochaine, mais la Ligue nationale, aujourd'hui, c'est une ligne où tu patines. Tu dois patiner, tu dois être vite. Puis Carl Osner, c'est un défenseur défensif. Stay at home defenseman, comme on dit en anglais, là. Fait que ça va être, moi, je pense que ça va être difficile pour lui de retrouver le rythme, l'an prochain, puis pour les années futures. Fait que c'est pour ça que je dis toujours oui et non. Ça dépend pour qui tu vas dépenser ton argent. Puis quand je regarde ma liste, il y a pas beaucoup de noms qui m'intéressent. Fait que c'est sûr que pour moi, là, des mauvais contrats, il y en existe. Est-ce qu'on aurait pu avoir un mauvais contrat avec Radulov? Moi, oui, je l'aurais pris, le mauvais contrat avec Radulov.
Moi
pour
aussi.
Des raisons X. On n'a pas été capable de s'entendre, puis il est à Dallas, puis il paye moins d'impôts, c'est peut-être pour ça qu'il est là. Mais il reste que le marché des joueurs autonomes, ça peut être dangereux. Peut-être pas à long terme, à court terme, mais à long terme, ça peut faire très mal.
De façon globale, avant de parler des individus, Danny, toi?
Moi, je suis pas trop excité par la liste des joueurs autonomes. Évidemment, il y a Tavares qui est dans une classe à part, là, mais je pense pas que c'est un dossier sur lequel le Canadien doit passer. Ben, oui, il doit passer beaucoup de temps, là, évidemment, mais focusser son plan sur essayer d'attirer Tavares à Montréal. Ça fait partie des options, mais après ça, je suis un peu comme Benoît, je regarde ça et je dis, écoute, c'est une ligue de vitesse, c'est une ligue d'intensité, c'est aussi une ligue où tu dois récupérer rapidement. Puis ça vient avec la jeunesse. C'est important d'avoir des joueurs d'expérience et des joueurs talentueux dans ton équipe. Mais l'équilibre dans tout ça est très important. Puis moi, je pense que le Canadien a des besoins très, très spécifiques puis doit rejoindre son alignement à des positions clés.
Un défenseur gaucher, je pense que c'est sur toutes les lèvres parce qu'on pense à Shea Weber qui joue à droite puis c'est pas clair qui, encore une fois, sera son partenaire la saison prochaine. Et on a tous en tête l'objectif, je pense, chez le Canadien d'améliorer l'attaque, les gars. Dans les joueurs disponibles, je vous en nomme quelques-uns, mais ça, ce sont les plus évidents. Mais il y en a plus que ça, des joueurs autonomes disponibles. Il y en a peut-être qui vont nous surprendre aussi, mais parmi les plus évidents, il y a David Perron, il y a Tavares, tu viens d'en parler, Van Riemsdyk, un James Neal, un Rick Nash, il y a peut-être des noms que j'oublie, mais est-ce qu'il y en a un pour qui vous feriez des efforts pour dire, lui, je pense qu'il pourrait avoir une place dans mon casse-tête ici à Montréal? Benoît?
Dans les noms que tu viens de nommer sur ma liste?
Ou sur ta liste?
Ben, écoute, j'aborde dans le même sens un peu que Danny. Tavares, pour moi, c'est le gars qu'on devrait cibler, mais je suis convaincu qu'il ne viendra pas à Montréal. Fait que déjà là, c'est cause perdue pour moi dans ma tête. Le deuxième, c'est John Carlson. Carlson, je l'aime beaucoup, mais là, on a déjà Petrie et Weber. Fait que si tu signes un gars comme Carlson, tu peux pas avoir trois défenseurs droitiers qui gagnent autant d'argent. Avec les clauses de non-mouvement, de non-échange, un contrat de Petrie, t'es dans le trouble. Fait que déjà là, c'est deuxième prise. Fait qu'après ça, ma liste, elle diminue beaucoup, là. Puis, écoute, on peut parler des noms, mais c'est pas tant les noms, moi, que les années puis l'argent que tu vas leur donner. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui est important. Tu sais, James Neal, là, ça peut être un plan B, ça peut être un plan A, ça peut être un plan C. Peu importe là, comment tu l'amènes à Montréal.
Mais est-ce que t'as vu lui d'années dans la série, là?
Non, mais c'est le nombre d'années, puis l'argent qu'il va te coûter pour ce qu'il va te donner.
Mais parle-moi du joueur de hockey avant. Le joueur de hockey, est-ce qu'il y a des joueurs de hockey là-dedans qui t'intéressent? Lui, je le vois, il pourrait aider l'équipe.
James Neal m'intéresse plus que Van Riemsdyk pour son style de jeu.
Okay.
Greedy, tu sais, c'est un gars qui termine ses mises en échec, qui a pas peur de se saler le nez. Van Riemsdyk, c'est différent, il marque ses buts près du filet. C'est un marqueur naturel. Oui, il est vite, il est grand, mais je suis pas convaincu que c'est un gars qui peut élever son jeu d'un cran. Puis lui, ça va coûter cher, puis ça va prendre beaucoup d'argent puis beaucoup d'années. Tandis que James Neal est un peu plus vieux. Fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait coûter un peu moins cher. Mais encore là, le problème du Canadien, puis là, on parle du Canadien, c'est des joueurs de centre. Tu sais, c'est notre ligne de centre qui fait défaut.
Ah ouais, moi, je te rejoins à 100%. Tu peux pas commencer à regarder les joueurs qui peuvent produire offensivement quand tu as des joueurs à l'interne qui regardent la ligne de centre et qui se disent, je parle d'ailier, bien sûr, là, Puis le capitaine en fait partie. Il regarde à leur gauche, à leur droite, dépendant de la position où ils jouent, mais il regarde dans le milieu. Ouais. Moi, je pense que tu bâtis ton équipe au centre encore plus aujourd'hui. T'sais, on regarde la finale de la Coupe Stanley, puis on a tous parlé avec Éloge de Carlson, qui a connu une saison extraordinaire, puis c'est une découverte.
William, oui.
William Carlson, évidemment, je fais bien de le mentionner. Puis, mais écoute, quand tu regardes la ligne de centre des Capitals de Washington, tout le monde est à niveau, tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Mm-hmm. Tu te retrouves avec une ligne de centre extrêmement compacte. Tu as 4 joueurs qui sont pratiquement à leur place dans une équipe championne. En parlant d'Eller au 3e, parlant de Beagle au 4e centre, puis bien sûr, avec, là, tu as Kuznetsov et Backstrom 1 et 2. Dans l'ordre ou dans le désordre, dépendant des situations, mm-hmm, on s'en fout. Là, il reste c'est ton cœur, le cœur de ton équipe est là. Après, tu regardes autour. Moi, je suis convaincu que, par exemple, quand on regarde dans les déceptions, tu regardes Tampa Bay, Tampa Bay doit se demander maintenant, on fait quoi? Mm-hmm. C'est quoi l'autre niveau, c'est quoi? Passer à l'autre étape, c'est quoi? Mais c'est bien sûr de reconsidérer notre ligne de centre. Peut-être que finalement, Stamkos, c'était peut-être pas une si bonne idée de le mettre au centre. Peut-être qu'on lui aurait donné un peu plus de latitude offensive en le faisant jouer à l'aile, puis en ayant un joueur de centre de premier plan. Mais on avait pris une décision, et cette décision-là, c'était bien sûr d'aller chercher un défenseur, puis Sergachev a été un bon joueur pour eux, puis c'est un jeune joueur, mm-hmm, puis c'est un joueur prometteur, puis tout ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que il est très difficile là, d'avoir l'équipe parfaite. Mais en bout de piste, l'équipe parfaite, c'est l'équipe qui est au centre et bien et solide, puis ensuite, c'est à la défense.
Et chez les centres, vous êtes d'accord, Danny et Benoît, pour dire que les deux meilleurs disponibles sont avec des attributs différents, mais Tavares et Stastny. Envoyez-vous un autre qui accote ces gars-là dans les centres disponibles.
Non.
OK, donc je reviens à ça. Et là, je vous place dans la situation pour fin de la conversation. Tu es en position de décision. Là, tu diriges le Canadien ou tu es le conseiller principal. Là, Tavares, tu dis-tu, ben, il viendra pas ici ou tu sors toute la parade puis tu fais tout pour l'avoir?
Je fais tout.
OK.
Mais même en sortant toute la parade, ça veut pas dire que tu vas
l'avoir.
Il va peut-être être signé.
Mais si tu fais chose à moitié,
je serais surpris, là.
Mais si tu fais chose à moitié, c'est sûr que tu l'auras pas.
C'est sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qui inciterait Tavares à venir ici?
P.A. Parenteau, qui, dans un pari amical avec son père, a dit que Tavares viendrait ici, lui avait répondu, je prends ces mots pour te répondre, Benoît, et j'ai dit, pourquoi donc tu penses qu'il viendrait ici exactement? Il dit, à cause du besoin incroyable ici au centre. Est-ce qu'il y a une équipe qui a plus besoin d'un joueur de centre que le Canadien? Et à cause des sous disponibles à Montréal, est-ce qu'il y a autant d'équipes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont une marge de manœuvre, disons, sous le plafond salarial?
Rapidement, là, je vais laisser Benoît parler de ça. Moi, je sais pas, Benoît, ce que tu en penses, mais moi, je pense pas que dans la tête de Tavares actuellement, l'argent, c'est un enjeu.
Non.
Je pense même pas que ça lui effleure l'esprit. Combien je vais gagner? Le montant que son agent a mis sur la table, il va l'obtenir.
Mm-hmm. C'est sûr. Alors, le reste, c'est de choisir l'équipe, l'environnement, comme tu dis souvent, les chances de gagner. Mais ça, on peut se tromper, là. Y a-t-il quelqu'un qui avait prédit que Washington gagnerait la Coupe cette année?
Non.
Ah, non.
Tu sais, puis qui va gagner l'an prochain? Qui va gagner dans 2 ans? Qui choisit pour remplir?
Non, mais c'est pas juste. Moi, je pense que c'est l'équipe, c'est l'environnement. Un environnement favorable à ce que lui veut, là. Puis de ce que j'entends, puis je connais quelqu'un qui connaissait bien, qui est allé manger avec lui sa dernière visite, puis c'est une petite napkin, il a dit qu'il y avait de moins de 1% des chances qu'il vienne à Montréal. C'était-tu un bluff? C'était-tu pour le... C'est ça.
OK.
Moi, si je suis son agent, je te l'ai dit avant que les séries commencent.
Oui.
Mais moi, si je suis son agent, mais je veux lui conseiller, s'il y a une ouverture, d'aller à Vegas. Vegas, là, c'est le scénario parfait. On sait que Tavares, c'est pas un amoureux de tout ce qui est glamour.
Pas un élément perturbateur.
C'est lui, il veut pas être en avant.
Ouais.
Il va être un leader silencieux, le genre de gars qui fait son travail. C'est quoi? Il ressemble un petit peu à Shea Weber dans sa manière de composer avec l'aspect médiatique de son travail. Il est professionnel. Il est, on va dire, comme le gars en bon québécois, straight to the point, business-like, mais c'est pas un gars qui aime avoir ça. Donc, moi, je pense qu'il va choisir un environnement un peu moins traditionnel. Mm-hmm. Ça, c'est une première chose. Mais c'est très personnel, ce que je dis là. Je sais pas.
C'est des bons marchés de hockey quand même.
Mais c'est exactement. Puis là, Benoît, c'est une équipe qui frappe à la porte. Parce que ce qu'ils viennent de vivre, eux, là, Ça veut dire que maintenant, leur performance, là, c'est le plancher. L'année prochaine, les gens là-bas, les attentes sont extrêmement élevées. Tavares, il n'y a pas de problème avec ça, je suis convaincu. Mais il va vivre dans un environnement où il est attendu parce que s'il s'en va là-bas, ils ont l'argent pour le payer.
Ouais.
Ils ont les conditions pour le mettre en valeur. Il se fera pas trop achaler s'il se promène dans la rue. Pas sûr que bien du monde vont le reconnaître. Et ils reconnaissent plus Elvis qu'ils reconnaissent Tavares, ça c'est sûr.
Garanti.
Alors, donc lui, il s'en va là dans un environnement où il va pouvoir se concentrer sur son hockey. Il arrive à l'aréna, il fait son travail, c'est un vrai pro, c'est un ambassadeur du hockey. Et ça repositionne tous les autres joueurs dans la ligne de centre. Puis je pense que moi, si je regarde comment ils ont travaillé cette année, lui, il cadre parfaitement dans le genre de gars qui va fitter, c'est une prête expression, avec l'équipe.
Il y avait des rumeurs aujourd'hui qui disaient, bon, les Islanders parlent à Tavares tous les jours. J'espère qu'ils parlent à Tavares tous les jours. Premièrement, c'est la seule équipe qui peut lui parler présentement. Puis moi, j'étais un peu d'accord avec Danny, puis ce que j'ai entendu, c'est le marché de Vegas l'intrigue vraiment. Puis l'autre marché, c'est San Jose.
Donc, ça sent la Californie. Donc, on se tourne du côté de Paul Stastny, donc. Parce que ça sera des efforts 20 là, ou de 20 efforts.
Et c'est là qu'on tombe dans l'argent et les années.
Et là, combien de
joueurs qui vont
Paul
le côtoyer? Parce que lui, il a joué Keeler puis Laine, là, la majorité du temps. Puis ça, il joue sur la première vague en avantage numérique. Tu places Paul Stastny, premier joueur de centre derrière je sais pas qui, là, parce que là, on peut spéculer. Là. Disons que c'est Drouin, puis après ça, Dano, c'est ton troisième. Mais encore là, les attentes vont être tellement élevées envers Paul Stastny.
Mais au-delà des attentes, le besoin.
Risque de se planter est majeur pour lui.
Mais c'est pas un gros producteur de points,
ben,
comme
c'est
tu dis.
Fait qu'imagine-toi les attentes. Quand Paul Stastny va signer avec le Canadien, si jamais ça arrive, parce que là, on peut spéculer, là, les gens vont s'attendre à un gars qui va aller chercher 50, 60, 70 points par année. Ce qui, ça arrivera pas.
Ça arrivera pas. T'as raison, Benoît, 100%. Puis en plus, d'entrée de jeu, t'as dit quelque chose de fondamental. Puis je le reprends. C'est juste pour te prouver que je t'écoute, mon chum.
Moi aussi, je t'écoute, Danny.
La vitesse.
Ben oui.
Stastny, c'est pas ça.
C'est ça.
Puis moi, je pense que lui, à 32 ans, la vitesse, ça fait partie du passé. On est dans la gestion de la décroissance.
Mm-hmm.
T'es un très bon joueur, là, puis j'enlève rien. Mais il peut pas aller dans un environnement où il devient ce que nous on appelle dans le langage un go-to guy. Ça marche pas. Il était pas un go-to guy là-bas, c'était pas le joueur, c'est pas le Kuznetsov de Washington.
Là, je fais l'avocat du diable sur Stastny parce qu'il y en a pas ben d'autres, les gars, puis ça nous prend un centre, puis Tavares, ça a l'air qu'il est parti. Fait que là, moi, je suis là, je dis, les boys, ça nous prend un centre.
Ouais, mais gars, moi, t'arranges ça.
Mais attends un petit peu, juste pour vous dire que des fois, là, est-ce qu'on fait une erreur de focaliser sur les stats? Parce que ce que les joueurs, puis là, je fais écho ou je ramène sur la table l'écho qu'on avait des joueurs qui jouaient avec lui à Winnipeg, l'écho des entraîneurs. Apparemment, c'est un A+, au niveau de l'attitude, au niveau de la mentalité. C'est sûr qu'il était très bien entouré. Il a 15 points en 17 matchs en série. Ça, c'est une belle production, mais on s'entend qu'il était d'une bonne équipe. Et c'est la première fois en 5 ans qu'il franchit le cap des 50 points cette année, là, avec sa saison combinée Winnipeg. Mais donc, tout ça, là, toutes les valeurs ajoutées, Danny et Benoît, pour ajouter à la colonne vertébrale des standards de comportement. Apparemment que c'est un professionnel ultime avec Shea Weber, tout ça. Tu sais, il n'y en a pas d'autres. Mettons, d'autres.
C'est sûr que si tu veux mettre du plâtre sur le mur, oui.
Du plâtre sur le mur?
Ben oui, moi j'appelle ça du plâtre sur le mur parce que ça fait des années qu'on fait ça. C'est quoi le mandat de Marc comme DG? Là? Parce que souvent, il est critiqué. Son mandat, c'est d'essayer de bâtir un club gagnant tout en participant aux séries, ce qui est pratiquement impossible à faire dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est pratiquement impossible. Puis, quand je regarde Stastny et ses performances avec Saint-Louis, ben les Saint-Louis ils l'ont échangé et ils n'ont pas participé aux séries. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise saison dans son cas. Là, il se retrouve à Winnipeg. Ben là, tu regardes Winnipeg, Scheifele, Wheeler, c'est les deux leaders. Après ça, ton deuxième, ton troisième joueur de centre, là, eux, tu peux les cacher. Ça, c'est pas méchant ce que je dis là. Mais quand tu places Stastny, Little, mais t'as Scheifele, ouh! Là, il devient intéressant pour un club.
Vraiment.
C'est la même chose.
L'environnement.
C'est la même chose avec Lars Eller que Danny, quand tu parlais de Lars Eller qui a joué du bon hockey. Mm-hmm. Kuznetsov a été incroyable cette année en série. Après ça, tu as Backstrom qui était blessé. C'est un joueur de centre numéro 1 qui était meilleur que Kuznetsov à son arrivée dans la Ligue nationale. Là, tu places Eller comme troisième joueur de centre. Lui, là, s'il produit un match, il produit, tout le monde va être content. S'il produit pas, là, la pression n'est pas sur lui. Elle est sur Kuznetsov, Ovechkin, sur Oshie puis sur Backstrom.
Mais il était un excellent releveur quand Backstrom a été blessé.
Mais c'est ça,
releveur.
Mais Danny, t'es-tu d'accord que sur 82 matchs, Lars Eller te donnera pas ça?
Non.
C'est la même chose, là, Stastny.
Mais c'est en série que ça compte.
Oh, non, mais c'est correct ce qu'il a fait en série.
Faut que tu rentres.
Il faut que tu te rendes, là.
Oui. Mais il t'empêchera pas de te rendre.
Non, 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 mais dans sa chaise, là, qui n'est pas obligé de produire, excuse-moi, Danny, là, dans sa chaise, qui n'est pas obligé de produire, là, c'est parfait.
Ben oui.
Puis si, t'attends après ses goals.
C'est ça. Là, t'es dans le trou.
Exactement. Ben oui.
Ah, mais les gars, si la solution, puis je suis pas contre toi, là, je faisais l'avocat du diable, absolument. Mais donc, si la solution, ben moi, j'adore ça. Mais j'ai un pitch de vente à vous faire. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à accepter ça? Est-ce que le public serait prêt à accepter ça? Dépense pas d'argent sur le marché des joueurs autonomes et je vous le dis le reste après la pause.
Oh.
Et je reprends exactement là où j'ai laissé avant la pause, les gars. C'est... Puis moi, je suis pas contre ça. Mais tout le monde dit, ben non, on peut pas faire ça à Montréal. Mais moi, je suis tanné. C'est qui dit qu'on peut pas faire ça à Montréal? Puis je sais que c'est une phrase qui se dit souvent. Ben justement, je le sais que chez le Canadien, dans le bâtiment, peut-être que ça va changer, mais il y a eu souvent eu ce réflexe-là. Tu peux pas faire ça à Montréal. On peut pas faire ça à Montréal. Et je l'entends tout le temps. Maintenant, faire quoi? Eh bien, les choix de repêchage que le Canadien a, à défaut, exemple, de susciter ou de générer de l'espoir en embauchant un Tavares ou un Stastny ou un autre, peut-être tant mieux s'ils vont en chercher un, peut-être un gars pour entourer là, tout ce monde-là. Mais exemple, ils vont chercher un autre choix de première ronde. Ils repêchent deux fois l'indice premier. Ils ajoutent à leur troisième choix. Puis, tu sais, c'est quand même un repêchage où il y a moyen d'amener du 109. Et je pense qu'on peut parier que le gars qui va être repêché au troisième rang va jouer dans la Ligue nationale dès la saison prochaine. Je ne sais pas si ça serait une erreur de le faire, mais je m'attends à ce que cette personne-là joue. Est-ce que ça, pour vous, pourriez-vous vivre avec un scénario où le Canadien, plutôt que de patcher, du plâtre sur le mur, comme dit Ben Brunet, qu'il se contente de repêcher. Pourriez-vous vivre avec ça? Danny?
Ben, écoute, moi, j'espère qu'ils vont... C'est pas de se contenter.
Mais pas de se contenter, mais qu'ils vont maximiser, disons, le repêchage.
Quand tu manges autant de misère,
oui.
T'espères que ton repêchage va t'aider à te sortir du trou. C'est de l'espoir.
Oui.
Le repêchage, c'est de l'espoir, mais c'est pas des garanties.
Vraiment pas.
Vraiment pas. Par contre, Canadien, cette année, est dans une position quand même assez favorable, pas seulement avec ses choix d'équipe, là, à cause de son positionnement, troisième au total, mais aussi à cause du nombre de choix qu'ils ont accumulés. Puis moi, je pense sincèrement qu'il y a quand tu regardes l'organigramme, pas l'organigramme, mais mettons ce qu'on appelle dans le langage l'alignement fantôme, là, l'espèce de depth chart ou de... Tu sais, le ghost roster. En tout cas, là, tu mets les trios, là, puis là, tu dis, OK, voici ce qu'on a à chaque position, OK? Dans le centre actuellement, là, de joueurs confirmés, vrais joueurs de centre, sur qui on dit chez le Canadien, oui, l'année prochaine, là, Dano puis De La Rose.
Ouais.
Ça, là, c'est... Après ça, on peut nous dire à nous, là, les gens du Canadien, puis je respecte ça, là, je comprends leur réalité. Puis qui n'est pas la même que la nôtre. Mais ils peuvent me dire que Jonathan Drouin, c'est sûr que c'est un joueur de centre, mais moi, j'ai le droit d'en douter. Mm-hmm. Tu comprends? Ben, ils peuvent me le dire. Là. Ben moi, oui. J'ai le droit d'en douter. Oui. Ils peuvent dire que Galchenyuk, c'est un ailier. Moi, j'ai le droit d'en douter. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, quand on regarde tout ça, c'est que on a 8 joueurs, puis là, je les nomme. Là. Galchenyuk, Gallagher, Drouin, Pacioretty. Ça, c'est les 4 ailiers, pour dire, là, ça, c'est le cœur de l'offensive du Canadien de Montréal. OK?
Mm-hmm.
Là, on va peut-être en mettre au centre, tout ça. Bon, en tout cas, on se garde une petite gêne. Ça, c'est leur réalité. Hudon, Byron, Lekkonen et Shaw. Ça, c'est l'équipe du Canadien de Montréal en avant.
On fait pas peur à personne, c'est ça qu'on a dit souvent cette année. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Et est-ce que si le Canadien annonçait le jour du repêchage ou la veille, tu seras là, Danny, tu vas le vivre? Qui mettent la main, oh, on échange Pacioretty, on fait un autre échange, on échange une couple de choix de deuxième ronde, on fait des packages, puis on pêche.
Mais moi, je pense que c'est un incontournable. Choix de première
ronde. Peut-être 3, sait-on jamais?
Moi, je pense que c'est un incontournable. Maintenant, est-ce que ça va être Pacioretty contre des choix de repêchage? Ça, je suis moins sûr. Moi, je pense que Pacioretty va passer dans une transaction.
Mais tu souhaites plus qu'un choix de première ronde? C'est-tu ça que je t'entends?
Ben, c'est
ça que j'entends?
Je vais t'expliquer. Pour moi, là, puis j'ai hâte de vous entendre, les boys, là, moi, pour moi, les gars, Pacioretty, il veut plus jouer à Montréal, dans ma tête, là. Puis probablement dans la sienne aussi, mais là, je parle de moi, là. Là, c'est mon interprétation, ma lecture des choses. Alors, si Pacioretty s'en va, puis je pense qu'une des organisations qui est très intéressée à lui, c'est la Floride. Il y a des pourparlers actuellement pour lui. Moi, je pense que c'est important que le Canadien réussisse à faire une transaction qui implique un joueur qui arrive en retour. Après qu'il y ait un choix de deuxième ronde qui accompagne Pacioretty, qu'il y ait des choix qui se soient échangés parce que c'est un repêchage où il y a beaucoup de profondeur, puis tout le monde cherche à aller optimiser ce repêchage-là en allant chercher des choix. Ça, j'ai pas de problème. Mais c'est sûr que si Pacioretty n'est pas dans l'équation, il doit partir pour un joueur de centre. Il ne peut pas partir pour autre chose qu'un joueur de centre. Parce que c'est lui qui a la meilleure valeur actuellement pour permettre aux Canadiens d'aller chercher un joueur de centre.
Peu importe d'où il va venir, on s'entend qu'il y a un joueur de centre qui va débarquer à Montréal.
Dans une transaction.
Dans une
transaction. Je pense pas que c'est dans le repêchage, parce que un joueur de centre, puis là, c'est Benoît qui peut en parler plus que moi. Moi, j'ai pas été sur ce glace-là. Mais je sais que c'est très difficile de jouer au centre dans la Ligue nationale, mm-hmm. dans un court laps de temps, à moi, d'être un exceptionnel.
Mettons, tu vas chercher un centre, mais toi, plus qu'un choix de repêchage, c'est-tu de quoi qui t'exciterait ou qui t'allumerait, ou c'est pas là que ton attention est tournée?
C'est pour un joueur
de première ronde, je veux dire. Ouais,
c'est... Ben, écoute, c'est
mais ça va être du plat, si t'as pas Stastny puis Tavares, ton joueur de centre. J'en reviens à là. C'est pour ça que je vous tourne du côté du repêchage. On va être dans le plat.
Ça peut passer par le repêchage, mais est-ce que le mandat de Marc, c'est ça? Je pense pas que c'est ça, son mandat.
Ben, écoute, je regarde la dernière année puis tout ce qu'il a pas fait pour sauver le naufrage, puis je suis pas sûr que c'est pas ça.
Mais là, tu viens de signer ton gardien de but à 8 ans, 10.5. T'as Shea Weber qui va en gagner 7, qui t'a coûté 12 les deux dernières années. Pacioretty va te gagner, gagner 7-8, mais il est parti, là, mais il t'en gagnerait quand même 7-8. T'sais, une reconstruction, ça passe pas avec ces gars-là. Ça, c'est, j'appelle ça un reset. T'sais, un reset, tu vas t'échanger Pacioretty. Faut que tu ailles chercher un joueur de centre. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt, puis je suis d'accord avec. Je sais que les Panthers ont de l'intérêt. Il semblerait qu'on voulait avoir Trocheck en retour de Pacioretty. Mm-hmm. Mais tu sais, tu regardes
ça arrivera pas.
Là. Ça arrivera c'est pas, sûr. Parce que la finale, la façon dont c'est gagné, là, on vient d'en parler, c'est gagné ça. Avec deux joueurs de centre. Ça te prend deux bons joueurs de centre. Tu regardes les trois dernières années, les Pingouins. Malkin et Crosby. Bonino était là. Troisième joueur de centre parfait. Là, tu regardes Washington, comment ils ont gagné leur coupe, même si on les voyait pas là. Kuznetsov a été incroyable. Backstrom, blessé, a été incroyable. Ça passe par ça. Ça veut dire, on s'est allé chercher Bjugstad. Bjugstad, pour moi, là, c'est pas un gars qui va venir aider le Canadien. Fait que, je sais pas s'il y a un jeune dans l'organisation. Je sais qu'il y en a un prospect, là, qui est très, très jeune. À partir du moment où tu vas chercher un jeune dans l'organisation, là, ben, écoute, c'est la patience, puis c'est le temps. Puis après ça, tu bâtis-tu avec Price. Tu sais, tu fais cette reconstruction-là avec Price, avec Shea Weber.
Mais une reconstruction qui fonctionne, là, c'est pas supposé prendre 10 ans. Quand ça prend 10 ans, là, c'est parce qu'il y a du monde qui a dormi sur la Twitch, comme à Toronto et Edmonton longtemps. Là. Moi, je pense qu'une reconstruction, ça peut se faire assez rapidement.
Ouais.
Je pense. En tout cas, regarde.
Ça dépend.
Regarde Vegas, ils ont atteint la finale de la Coupe cette année. C'est pas une reconstruction. Je sais que c'est pas. Ouais, je peux pas le comparer à une reconstruction, là. Ouais. Mais tu pourrais te bâtir un club
qui ressemble
à ça.
Moi, j'ai l'impression que Vegas vont être très agressifs parce que je suis convaincu que George McPhee, puis son staff, là, regarde ça, puis ils disent avec la même équipe, on peut rater les séries l'année prochaine. C'est pour ça qu'ils vont être très agressifs
sur
le marché.
Sur le repêchage, les gars, au rang numéro 3, moi, je pense que. En tout cas, je sais pas si les Canadiens songent à s'en départir. Je sais pas quel genre d'offres ils ont, mais dans l'optique où ils repêchent, est-ce que. Je sais pas si vous avez entendu André Tourigny plus tôt cette semaine. Il dit moi, avec le choix numéro 3, je repêcherais Brady Tkachuk. Mm-hmm. Et il a fait toute une plaidoirie. Il m'a vendu, puis. Pour le fun aussi dans la conversation, que des gars comme Tkachuk, et ça passe pas souvent, des gars physiques, des gars qui peuvent compter des buts, qui peuvent tout faire, qui te dérangent, qui vont faire de la place. On n'a pas bien chez le Canadien. Maintenant, est-ce que tu utilises un choix numéro 3 dans un repêchage pour repêcher un gars avec ces attributs-là ou tu y vas vers un gars qui a un talent plus naturel? Vous vous tourneriez vers quel type de joueur? Je sais que vous les avez pas dépistés, les gars, mais au plan philosophique, un Tkachuk ou un Zadina ou un Kotkaniemi, le jeune Magan, mais le Finlandais au centre, Danny ou Benoît. Ouais, tiens.
Ah ben moi, je vais avec le gars de caractère, c'est sûr. C'est sûr que je vais avec le gars de caractère qui est capable de jouer. Est-ce que Tkachuk peut devenir un joueur de centre? Ou c'est un ailier, je pense, plus qu'un joueur de centre en plus de ça.
C'est un ailier.
C'est un ailier.
Il y a le problème du Canadien, c'est tous des ailiers.
C'est ça. Il est loin de joueur de centre, là, c'est le Finlandais.
Oui. Puis si on parle, on est plus loin dans le...
Mais un élément indispensable, tu sais, donc, tu sais, peu importe qui tu repêches, tu as l'occasion de repêcher un gars qui a quelque chose de spécial s'il repêchait numéro 3.
Moi, je vais vous dire une chose, les gars. Là, je sais que là, je sors un peu du sujet, mais on va y revenir. Mais je veux absolument le dire parce que on parle de ça. Là. On dirait que le Canadien n'est pas capable de repêcher les joueurs de centre. On dirait qu'ils ne sont pas capables de trouver un joueur de centre prolifique, un gars qui va... Là, on me dit, c'est à cause du fait qu'ils repêchent trop tard. Écoute, il y en a qui repêchent 30e, puis en trouve un.
Mm-hmm. Ben, Kuznetsov, c'est un fin de première ronde.
Ben oui, les Canadiens auraient pu le prendre.
Ben, il y en a un paquet.
Rackles en était un autre. Il y en a plein, là. Mais c'est mon point. Puis j'essaye pas d'être sarcastique. Je vais juste me demander
non, c'est fait
comment, ça arrive. Pourquoi? Mais maintenant, moi, je suis le propriétaire de l'équipe. Là. Je parle avec Marc Bergevin. Je dis, Marc, comment ça qu'on n'est pas capable d'en repêcher des joueurs de centre? As-tu une explication? Je comprends pas ça, moi.
C'est parce que son pauvre recruteur-chef, qui est ici depuis à peu près 20 ans, il n'a jamais pu faire les choix qu'il voulait, pauvre gars. Il était tout le temps obligé de choisir un gars qu'il ne voulait pas choisir. Puis c'est à cause de ça, Danny.
Ouais, ça doit être ça.
Hey, j'étais là, moi, en 94-95, la dernière fois qu'on a eu une ligne de centre potable.
Oui, bien c'est vrai.
Écoute, il y avait Vincent. On avait Vincent, Sakou, Pierre Turgeon, puis Marc Bureau était le quatrième. Des mineurs, on avait Craig Conroy. Quand on a échangé Pierre Turgeon, Conroy est parti avec lui. Puis à partir de ce moment-là, là, ça a été une baisse. Puis là, il y a eu les Ribeiro, Plekanec, ces gars-là. Puis là, j'entends encore des gens qui me disent que Plekanec va revenir. J'espère que c'est le plan F. Là, c'est même plus le plan B, plan C. Là, j'espère que c'est le plan F. Moi, j'ai rien contre Plekanec. Je l'ai adoré. J'ai une belle carrière avec le Canadien. Mais s'il revient, là, c'est faire un pas vers l'arrière. Là.
Ouais. C'est pour ça, moi, tu sais, je reviens à la fin de la Floride parce que.
Il y a de quoi là, tu penses?
Oui, moi, je pense que le grand joueur là, qui joue pour Denver, l'Université de Denver, là. Ouais. Borgstrom ou quelque chose comme
oui,
ça. Là.
Ça. Oui.
Lui, c'est un dominant. Et lui, il domine complètement. Lui, tout le monde dit qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale l'an prochain. Et, il ne sera pas un gars qui va virer à la Ligue à l'envers, là, si on se parle en québécois, mais c'est sûr que c'est un joueur c'est un joueur de la Ligue nationale, selon tous les observateurs. Maintenant, est-ce que le Canadien est prêt à... comme dirait l'autre, à se déculoter pour avoir un gars comme lui qui n'a pas joué un match dans la Ligue nationale, je pense pas. Mais en même temps, moi, ce que je trouve, c'est que le Canadien doit rajeunir son alignement, puis doit rajeunir son alignement à des positions clés.
Il n'est pas vieux, l'alignement du Canadien, Danny, à part Price et Weber, mais c'est la qualité du talent. Parce que regarde le Canadien.
Il n'y a pas d'interrogation.
Il n'y a pas beaucoup. Jordy Benn, Weber et Price, est-ce que j'en oublie un? Halsner qui approche de la trentaine? Ouais. Pour le reste, là, c'est...
Mais... Non, t'as raison, mais moi, je parle de rajeunir...
Le talent, ouais. Le noyau. Ça. Rajeunir le noyau, peut-être?
À des positions clés. Si tu prends avec Weber, avec Petrie, ça prend plus de talent. C'est Halsner,
ben, c'est ça.
Avec tout le respect que j'ai... C'est un gars extraordinaire, là, en passant. Là, c'est
un bon gars.
C'est un gars d'équipe fantastique. Mais c'est juste que on le place dans une situation d'échec. Il peut pas jouer là. Il est pas assez rapide. Il n'y a pas de jeu de pied. C'est un gars, c'est comme Benoît le disait tantôt, il reste derrière, puis ça prend à côté de lui une bombe. Ça prend à côté de lui un gars qui est dynamique au bout, puis qui bouge vite, puis qui va faire ce que lui peut pas faire. Alors là, ça le place dans une situation où il peut utiliser son potentiel, son talent. Si on lui demande d'être actif dans le jeu, ce qu'on lui a demandé à Montréal l'an passé avec la nouvelle façon de jouer, ben écoute, ça fonctionnait pas, non. Là. Il est pas capable de jouer ce style-là.
T'attends-tu un gros coup, Benoît, là, d'ici le repêchage, d'ici la période d'autonomie ou tout ça, là, pendant
nerveux.
Les prochaines semaines?
Je suis très nerveux.
Ouais.
Ben, pas nerveux de ce que je vois, ce qui est disponible sur le marché. Puis je suis nerveux aussi quand je regarde la formation qu'on a présentement.
Ouais.
Tu sais, Byron Gallagher, c'est plus de 50 buts l'an passé.
Moi, c'est pour ça, les gars.
Parce que, tu sais,
repêche. Va chercher d'autres premières rondes, puis garde. S'il faut. Tu sais, t'es rendu.
Patrick, si tu te trompes.
On va dire, peux-tu reconstruire? Mais quand c'est démoli, t'as pas d'autre choix que de reconstruire.
Mais t'as 4 deuxièmes choix, right?
Ouais, c'est là que ça va se passer.
C'est là que ça va se passer. Moi, je pense que là, il peut y avoir du mouvement de personnel. Le premier choix, ils vont le prendre.
Oui,
mais j'espère.
J'espère qu'ils vont prendre le meilleur joueur disponible. Je pense que c'est un incontournable. À moins qu'il y ait une situation qui leur permette d'avoir le joueur qu'ils veulent puis aller s'améliorer. Je donne un exemple. Baisse un petit peu parce qu'ils veulent le joueur de centre. Ils sont convaincus qu'ils l'aiment. Baisse un petit peu. Donc, échange un joueur de leur choix de repêchage en retour de quelque chose. Et repêche un petit peu plus tard, mais repêche un joueur de centre, un jeune joueur de centre, celui qu'ils veulent.
Ça pourrait être bon.
Moi, j'aime une partie de ton scénario, mais j'aimerais ça qu'il aille chercher un autre premier round avec ses 4 deuxièmes.
Puis, ben, c'est possible.
Peut-être autre chose.
Puis pour les gens qui nous écoutent, là, souvenez-vous l'année d'Andrew Ladd et Louis Erickson, là, les contrats de joueurs autonomes. Là.
Oui.
Puis souvenez-vous de Carl Osner, c'est pas toujours la solution.
Non.
C'est la solution facile. Le plout sur le mur, Mario.
Allez, gars, j'ai obtenu en exclusivité le rapport de dépistage qui a amené Marc Bergevin a donné le contrat à Carl Osner. Voulez-vous le lire? Non, c'est une joke.
Il doit pas avoir grand-chose dessus.
Danny, merci beaucoup.
C'est sûr qu'il n'y avait pas de plan de ce même.
Bonsoir.
Moi, j'ai fini mes rénaux, j'ai fini. Je veux pas entendre parler.
À très bientôt. Salut Benoît. Et vous serez attentif au propos de Stéphane Leroux, lui qui est pas d'accord pour Ketchuk au troisième rang, tel que nous le recommandait notre ami André Tourigny.
Il est pas le seul, d'ailleurs.
Il est pas le seul. On va l'écouter après la pause. Merci, les gars.
Bye.